Chapitre 7. Le principal appartement de l'antique maison qu'habitait Taillefer était une de ces salles à manger, comme il s'en trouve encore dans cette partie de la France dont les plafonds, très bas, donnent à la voix humaine une surprenante sonorité. Cette pièce occupait presque tout le rez-de-chaussée. Pour sa commodité personnelle, Julien l'avait meublée de façon à ce qu'elle pût lui servir à la fois de bureau et d'atelier. La lumière y entrait à profusion par deux portes, ouvrant l'une sur la rue, l'autre sur le jardin. À côté de cette dernière, une baie haute et large avait encore été ménagée et son vitrage, constamment baissé, laissait pénétrer jusque dans l'intérieur les jets du lierre et des liserons qui, extérieurement, mettaient leur manteau de verdure sur la nudité de la muraille. Une natte tunisienne amortissait le bruit de pas sur les dalles du parquet. Des rangées d'étagères, supportant d'énormes registres reliés en parchemin, garnissaient les murs. À main droite, le coffre-fort, orné de clous à tête ronde, la bibliothèque, avec ses statuettes et ses paquets de journaux, comblait l'espace compris entre la porte de derrière et la baie. De l'autre côté, et un peu en travers, était un divan recouvert en maroquin de couleur brune, un secrétaire en noyer, cinq chaises, plus deux fauteuils du plus pur Louis XIII. Ça et là, dans un désordre sans recherche, des cartons d'esquisse, des tableaux sans cadre, des armes de toutes les époques, des costumes passés de mode, se voyaient accrochés dans tous les coins, ou jetés pêle-mêle sur les sièges, et, au milieu, près d'un chevalet caché sous un rideau de serge verte, une table chargée de paperasses annonçait que celui qui examinait si souvent ces colonnes de chiffres ou qui, aux heures de nonchaloir, retouchait avec tant de patience cette ébauche, ne tarderait pas à reprendre le labeur interrompu. C'est là que se tenait Taillefer le lendemain du jour où le juge d'instruction, convaincu de sa non-culpabilité, après un minutieux examen du dossier et divers interrogatoires restés infructueux, l'avait rendu à la liberté au bout de deux semaines de prison préventive. Il se faisait tard. Le soleil disparaissait à demi derrière les croupes des Alpes qui l'ensanglantaient. Les bruits du dehors s'affaiblissaient et, déjà, de sa base à l'arête de sa toiture, la sombre maison, que n'animait jamais aucun rire, dormait dans le silence. Assis devant sa table de travail, les coudes rapprochés, les mains au front, Julien se plongeait dans les réflexions que l'épilogue de l'affaire de Montbel, comme disaient les substituts de Grenoble, éveillait en lui. « C'est fini, pensait-il, elle ne viendra plus. » L'abîme béant, que l'implacable volonté de son père avait creusé entre elle et moi, s'est encore agrandi, car, quoique le magistrat instructeur ait, faute de preuves, abandonné l'accusation, quoi qu'il ait prononcé, moyennant caution, ma mise en liberté provisoire, je n'en suis pas moins coupable aux yeux de ce troupeau d'indifférents et d'égoïstes que l'on nomme le monde. Je tombe, victime de ce préjugé stupide, qui veut que, même lorsque, comme dans mon cas, il s'agit d'une erreur judiciaire, le prévenu soit un accusé tant qu'il n'a pas été absous et lavé par la sentence des juges. Ce journal le dit, et chacun le répétera après lui, je suis l'assassin de ce marquis. Et si le malheur veut que le meurtrier véritable ne soit pas découvert, la tâche restera éternellement sur moi. Il me faudra quitter le pays. Partout, je serai honni, conspué, maudit, et, en me rencontrant par les rues, les mères souffletteront leurs enfants pour rendre ineffaçable le souvenir de ma prétendue forfaiture. Cependant, je suis innocent. J'ai partout donné l'exemple d'une existence de dévouement et de vertu. Nul n'a, plus que moi, la conscience en repos. Voilà la justice des hommes. Ainsi, il n'y a plus d'illusion à conserver. Le prisme au travers duquel j'avais vu se dérouler mon avenir est un prisme menteur. De quelque côté que je me retourne, c'est toujours le désespoir qui me fait face. Allons, le rêve touche à sa fin, le réveil est proche, il faut mourir. Oui, je mourrai. Oui, je t'appelle, ô mort, ô libératrice des opprimés, ô vierge égalitaire, et jamais amant n'a eu, en découvrant le sein inviolé de sa maîtresse, les frissons de bonheur qui m'attendent sous l'étreinte de tes bras. Il se leva et continua, après un court moment de silence. Mais Diane, cet ange béni, dont le sourire résigné éclairait ma route, que deviendra-t-elle quand je ne serai plus ? Ma mort n'entraînera-t-elle pas la sienne ? Ah, je n'y veux plus penser, je deviendrai lâche et cruel. Il y a des cas où le suicide n'est ni un crime religieux, ni un crime social. L'être abandonné de tous, à qui la vie n'offre plus d'issue, a le droit de s'immoler. Préparons tout. » Il alla au secrétaire, ouvrit un de ses tiroirs, y prit deux pistolets d'arçon, revint vers la table sur laquelle il les déposa, puis reprit avec une exaltation croissante. « Voilà le salut. Le colonel Taillefer plaçait ses pistolets dans les fentes de sa selle les jours de bataille. Par une cruelle ironie du sort, ces mêmes armes, qui servaient à défendre la vie du père lorsque, calme et fier, il affrontait la mitraille et la mort, feront sauter la cervelle du fils. Les batteries fonctionnent à merveille. Le résultat n'est pas douteux. Va, philosophe, philosophe, créature indigne et vile. C'est pour te tromper toi-même que tu empruntes ce masque de stoïcien. Ton cœur a déjà démenti les promesses de ta bouche et tu trembles en pensant que c'est avec ta propre main qu'il te faudra briser la coupe où tu allais boire à longs traits l'ivresse des amours permises. « Ah, je ne pourrai jamais » s'écria-t-il avec rage. « Je ne pourrai jamais !» Et, les yeux aveuglés par les larmes, étranglés par les sanglots, il retomba assis. Il ne resta pas longtemps dans cet état de prostration. Une voix l'obligea à se retourner en demandant « Peut-on entrer ?»« Ah, c'est vous, père Hubert !» dit Julien, qui, très troublé, se releva après avoir, d'un mouvement rapide, caché les pistolets sous un tas de papiers. « Avancez donc. Qu'avez-vous à m'apprendre ?»« Beaucoup de choses, monsieur, beaucoup de choses !» glapit l'importun, paysan d'une soixantaine d'années, à la parole cauteleuse, aux traits fortement accusés, au visage dur, qui, vêtu d'une blouse bleue et d'un pantalon de velours marron à côtes, marchait, entortillant son chapeau entre ses doigts noueux. « Voyons, parlez !» insista Taillefer. « Avant tout, il faut que vous m'assuriez que je ne vous dérange pas, » reprit l'autre sans se presser. « Si vous me dérangiez, je vous aurais déjà prié de repasser à un autre moment. Et que vous me garderez le secret sur ce que je vais vous confier. »« Je vous le promets, » dit Julien impatienté. « Vous êtes un homme d'honneur, à vous je puis tout avouer. Voici. » Il y a environ 18 mois, je reçus en dépôt d'une voisine âgée et veuve une somme de 1 200 francs, elle n'avait pas d'autres ressources, qu'elle me confia à la condition expresse qu'après son décès, je la rendrais à ses héritiers qui se la partageraient. En ce temps-là, les récoltes étaient relativement bonnes. La terre nous rendait généreusement nos sueurs, la sécheresse n'avait point encore fait de ravages. L'argent fut placé au fond d'une cachette, dans l'épaisseur du mur de mon écurie. Je ne m'en occupais pas davantage. Mais les années de disette succédèrent bientôt aux années prospères. Plus de vin, plus de froment, plus de fourrage. Malgré les privations de toutes sortes, mes petites épargnes s'en allèrent à mesure que les besoins devenaient plus pressants. Il fallait se laisser mourir de faim ou mendier. Alors, un soir d'hiver, comme les enfants pleuraient, réunis près de l'âtre sans flamme, comme la mère, muette, pâlissait à l'approche des tortures qu'elle pressentait, je saisis un marteau et fis tomber la plaque de fer qui scellait le trésor dans la muraille. « Et vous vous servîtes de l'argent, n'est-il pas vrai ?»« Hélas, oui, » avoua Hubert en courbant la tête. Julien répondit sévèrement, « Vous avez eu tort. « Celui qui abuse du dépôt sur lequel il s'était chargé de veiller n'est plus qu'un vulgaire escroc. Si encore, après en avoir usé, j'avais pu la rendre, cette somme, ce n'eût plus été qu'une peccadille, une affaire entre ma conscience et moi. Malheureusement, je ne l'ai pas rendue, je la dois. La crise que traversent ceux qui, comme moi, vivent du produit de la terre ne me permet pas de combler dès maintenant ce déficit. Il me faudrait du temps. » Quoi qu'il en soit, comme vous venez de le dire, ma faute ne saurait être excusée. Les héritiers de cette femme vous ont-ils réclamé les fonds laissés par elle ? Interrogea le percepteur. Pas précisément, mais ils m'ont fait savoir, il y a peu de jours, qu'ils seraient ici demain pour liquider la succession. Depuis, j'ignore comment j'ai vécu. Toutes les nuits, pendant mes longues insomnies, je vois des gendarmes se mouvoir autour de ma couche. Pensez-y donc, monsieur, et conseillez-moi, vous qui connaissez la vie et ses exigences. Quelques heures nous séparent à peine de la date fatale, et si, par malheur, je me présente devant ces collatéraux rapaces avec les mains vides, c'est le déshonneur pour moi et la honte pour les miens, auxquels, à une autre époque, j'avais ambitionné de laisser mieux que cela. Ne vous désolez pas ainsi, père Hubert, fit Julien, remué malgré lui par l'accent sincère du vieillard. Soyez homme, que diantre, il y a remède à tout. Puissiez-vous dire vrai, je n'ai plus le courage d'espérer. Pendant qu'Hubert attendait, anxieux, le conseil qui, selon lui, devait le tirer de peine, Taillefer se disait « Oui, c'est cela, peut-être en secourant cette infortune, gagnerai-je le pardon de mon suicide. » Il fit quelques pas vers le coffre-fort, l'ouvrit, y prit un rouleau de pièces d'or, revint se poster en face du vigneron et, haussant la voix, « J'ai là, reprit-il, une réserve qui ne m'est pas absolument nécessaire. En voici une part. Elle vous aidera à sortir de cette impasse. Surtout, libérez-vous au plus vite. »« Comment ? C'est pour de bon ? » s'écria Hubert stupéfait. Puis, tout à coup, suffoqué par la joie, il se laissa choir sur les genoux en répétant « Oh, merci, merci !»« Relevez-vous, » ordonna le percepteur, qui, maintenant, avait hâte d'être débarrassé de sa présence. « On ne se prosterne que devant Dieu. Relevez-vous, vous dis-je. Comment parviendrai-je à vous rendre le bien que vous venez de me faire ? En ne me parlant plus de tout ceci que lorsque vous serez en mesure de me rembourser. » Ne vous pressez pas, je sais qui vous êtes, je vous donnerai toutes les facilités dont vous pourrez avoir besoin. « Vous êtes mon sauveur, » murmura Hubert, après avoir prestement empoché le rouleau d'or. « Allez tranquilliser votre femme, vous me remercierez après. » « Oui, j'y cours, mais je reviendrai, car celui auquel vous avez tendu votre main protectrice, et qui n'était rien pour vous, en somme, vient de contracter une dette de reconnaissance qu'il ne vous paiera pas, même en vous donnant le reste de sa misérable vie. » Il se couvrit et, une main à la poche, s'éloigna avec la joie dans les yeux. Julien poussa sur lui les deux battants de la porte, fit jouer le bec de canne, puis, bien assuré que personne ne pouvait venir le surprendre, prit une petite boîte sur le secrétaire, revint à la table sur laquelle il avait laissé les pistolets et reprit plus calme. « Les craintes que me donnait la vision de la mort se sont apaisées. Continuons nos funèbres préparatifs. Voici les balles, la poudre et les capsules. Tout est bien, c'est cette nuit que je me tuerai. Je fermerai soigneusement la porte ainsi que les persiennes. Cela fait, je m'étendrai tout habillé sur mon lit. Du dehors, la détonation ne s'entendra pas. Quant à Diane, j'aviserai le juge, par une lettre que je placerai en évidence, de vouloir bien lui cacher, le plus longtemps possible, la sinistre nouvelle. Il ne refusera pas cela, lui qui, inconsciemment, m'a fait tant de mal. » Il se tut et, debout, aux trois quarts tournés vers la rue, il se mit à charger ses pistolets, pendant qu'à deux pas de lui, Mademoiselle de la Rochetière ouvrait doucement la porte du jardin et entrait sur la pointe des pieds. « Bonjour, Julien, » dit-elle du seuil. « Vous, chez moi ?» exclama le percepteur, pétrifié et tout pâle, en se plaçant entre elle et la table. Elle voulut lui laisser croire qu'elle n'avait rien vu et ajouta avec dignité « J'ai appris que vous étiez libre et comme vous ne veniez pas à moi, comme vous ne m'écriviez pas, je suis accouru. M'en voudriez-vous pour cela ?»« Je ne vous en veux pas, Diane, je n'aurai jamais le courage de vous en vouloir. Mais je ne puis cependant pas m'empêcher de déplorer ce que vous venez de faire. » « En quoi suis-je donc répréhensible ? » fit-elle avec une douceur triste, en ramassant la traîne de sa robe d'un bleu clair pour s'asseoir sur le divan. « Écoutez-moi, je vous supplie de m'écouter, » répondit-il droit devant elle. « On a dû vous voir entrer ici. Assemblés au coin de quelques ruelles, les méchants, ils n'en manquent pas autour de nous, font, à cette heure, les suppositions les plus blessantes sur votre compte. » Dans quelques minutes, tout le pays saura que vous avez pénétré, seul, dans le logis de M. Taillefer, et, quoique vous soyez plus en sûreté ici, gardé par mon honneur qu'un margrave dans son donjon, cette action risque d'être préjudiciable à votre établissement futur, Car, croyez-moi, ma pauvre chère amie, on ne brave jamais impunément l'opinion publique. » Elle hocha la tête. « Je n'ai pas à m'inquiéter de quelle manière mes actes peuvent être appréciés par le vulgaire. Pour moi, il n'y a que ceci de vrai. Devant Dieu qui nous voit, je suis votre fiancée. Comme telle, j'avais le droit de me rapprocher de vous. » « Ma fiancée, gémit-il en s'asseyant auprès d'elle, vous l'avez été, ce temps est déjà loin. »« Que voulez-vous dire ? Interrogea-t-elle, je tremble de vous deviner. » Relevant la tête, il répliqua d'un ton résolu. « Il faut renoncer à moi, retourner à Verbois et m'oublier. Belle comme vous l'êtes, cela vous sera facile. Vous deviendrez sans peine la reine de toutes les fêtes et lorsque, froide et dédaigneuse, vous passerez entre les rangs pressés de vos adorateurs, les vapeurs de l'encens qu'on vous prodiguera envelopperont assez les choses pour qu'en tournant vos regards vers le passé, vous ne distinguiez plus les traits de celui qui a eu le malheur de troubler votre jeunesse et qui, voyant l'inutilité de ses efforts, s'en repente aujourd'hui. « Mais c'est de la folie cela, objecta-t-elle. Je ne veux pas vous oublier. Je ne renoncerai jamais à vous. » « Il le faut. Expliquez-moi au moins pourquoi et à quel propos l'idée d'une séparation, si invraisemblable qu'elle soit, a subitement germé dans votre esprit. » « Parce que les projets que nous avions formés ensemble sont impossibles à réaliser. Le baron de la Rochetière, qui, avant l'attentat dont on a voulu me rendre responsable, accueillait mes prétentions avec une faveur si peu marquée, n'aura-t-il pas raison de me repousser, de me chasser comme le plus vil des laquais, à présent que la justice me guette, maintenant que le mépris public a fait le vide autour de moi? Dès lors, à quoi bon tenter de briser sa résistance? Si ce n'est que cela, dit Fille d'Or rassurée, rien n'est compromis, et quoique je ne sois qu'une femme, je me sens capable de tout arranger. Comment le pourriez-vous? Elle répondit sans hésitation. En désertant le toit paternel pour venir prendre à votre foyer la place qui m'est due. De pareils moyens sont inconciliables avec mon caractère, déclara le percepteur en se levant. Je ne dois pas les accepter. Ils en étaient là de leur conversation quand la figure réjouie de Claudius apparut, encadrée de feuilles, à la baie du fond. De chez lui, le juge avait vu sa filleule traverser sa sonnage. Prévoyant ce qui allait se passer, redoutant même un coup de tête, il s'était jeté à sa poursuite afin de la ramener à la raison, au cas où cela deviendrait indispensable. Comme il la serrait de très près, il put entrer dans le jardin sur ses talons. Mais, arrivé près de la porte de l'atelier, avançant avec précaution, s'effaçant derrière le mur, il fit un détour, atteignit la baie à laquelle le jeune couple tournait le dos, et, de là, disparaissant au moindre geste, entendit tout sans qu'on soupçonnât sa présence. « Ah ah » grommela-t-il sourdement, « je ne m'étais pas trompé. La tourterelle a regagné le nid. Écoutons. » « Vous avez tort, Julien, » reprit Diane en se dressant à son tour. « Si vous acceptiez mes offres, nous pourrions fuir d'ici, aller aborder sur une terre hospitalière, dans un coin perdu dont nous ferions notre monde et où nous vivrions ignorés, où nous goûterions enfin, après la tourmente, le bonheur que nul ne peut nous ravir. N'insistez pas, ce serait inutile. Ma décision est irrévocable. « Oh, je l'avais bien compris, » dit-elle avec un mouvement désespéré. « Vous ne m'aimez plus. » « Je ne t'aime plus, » dit-il une voix ardente, en passant un bras autour de sa taille. « Oh, ne dis pas cela, autant vaudrait blasphémer. » Tu sais bien que je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle, tu sais bien que jamais idolâtrie n'a été plus pure, ni plus sincère, et c'est précisément à cause de cela que je veux m'éloigner de toi, car si ma raison ne commandait pas à mon cœur, si je me laissais fléchir par les caresses de ta voix, je t'obéirais, nous partirions, nous nous envolerions vers le soleil. Et cela ne peut pas être, tu ne dois pas me suivre dans ma chute. » Le colloque devient intéressant, observa le juge de paix, qui s'était accoudé sur le rebord de pierre tendre de la baie. Mademoiselle de la Rochetière se dégagea de l'étreinte de Taillefer, s'approcha de la table, fixa longuement les pistolets que, sans son trouble, le percepteur n'eut pas négligé de faire disparaître, puis, se retournant vers lui, continua souriante. « Puisque malgré tout vous me repoussez, je vous demanderai la faveur de mourir avec vous. Vous ne pouvez guère refuser cette preuve d'estime à celle qui se regardait déjà comme votre épouse. « Sors d'ici, te dis-je, » répliqua violemment Taillefer. « La juste fatalité qui me poursuit n'a besoin que d'une victime. Je ne veux pas de ton sacrifice. » « Nous devions partager le lit nuptial, » soupira-t-elle, résignée, en se laissant aller sur une chaise. « Tu me feras bien une place dans ta tombe. » Presque agenouillé à ses pieds, Julien suppliait. « Va-t'en, abandonne-moi à ma triste destinée. Je t'ai vu, je suis heureux. Va-t'en. » « Non, je reste, » répliqua-t-elle en s'emparant fébrilement de ses mains et l'attirant vers elle. « Il te serait plus facile de me tuer que de m'arracher de ce siège. J'avais juré d'être à toi ou de mourir si tu venais à me manquer. J'ai tenu ma promesse. Ne dois-je pas en être récompensé? Tu veux te défaire de la vie parce qu'elle t'apparaît sans aurore, soit j'approuve ton dessein. Mais n'est-il pas juste que nous mourions ensemble ?» Lune de miel, premier quartier, ricana Claudius. Je connais ça. Elle baissa la voix et ajouta, le regardant bien en face d'un regard qui implorait. Dis, mon bien-aimé, si tu veux, la nuit prochaine sera notre nuit de noces. Nous moissonnerons les dernières fleurs de ton jardin, nous les jetterons à poignées dans ta maison. Puis, lorsque ta porte sera bien close, tu me prendras sur tes genoux, tu me parleras d'amour. « Je me mirerai une fois encore dans tes yeux, et quand, alourdi par l'étourdissant parfum des fleurs que nous foulerons, ma tête s'affaissera sur ton épaule, nous expirerons dans les bras l'un de l'autre, tandis que, blanches ainsi que des colombes, nos âmes monteront à tire-d'aile dans la clarté des étoiles. » « Oh, ange !» s'écria Julien en pliant tout à fait les genoux, « je ne mérite pas le bonheur que tu viens de me donner. » Tais-toi, n'ajoute plus un mot, je ne veux pas t'entendre, car je ne veux pas faiblir. Ah ça, mais au train dont vont les choses, dit le juge, je crois qu'il est prudent d'aller quérir le père. Et, se baissant, avec l'astuce d'un chef muscogulge sondant le sentier de la guerre, il traversa de nouveau le jardin et regagna la rue. Les amoureux ne se doutèrent de rien, ils étaient si loin de là. « Quand je songe, murmura mademoiselle de la Rochetière, qu'il y a juste les mois aujourd'hui que je te vis pour la première fois, j'oublie nos souffrances, je me demande si je suis bien vivante, car il me semble que tu es encore là, étendue sur le gazon, défait, sanglante et blême. « Oh, mon bonheur perdu !» fit Julien en l'étreignant dans ses bras. « Je te croyais mort, tant ton cœur avait des pulsations lentes. » Sans l'indicible angoisse qui me serrait la gorge, j'eusse appelé à l'aide de toutes mes forces. Tu finis par faire un mouvement. Alors, mes inquiétudes se calmèrent et, pleine de pitié, je me mis à essuyer le sang qui coulait dans tes cheveux. Et lorsque, ouvrant les yeux, je t'aperçus penché sur moi, je crus à quelque chose de surnaturel. Ma surprise fut douce, réconfortante et saine. Je n'osais ni bouger, ni parler, craignant de te voir envoler comme un esprit charmeur au moindre souffle, et je restais appuyé sur ma main, heureux sans savoir encore pourquoi, abîmé dans mon admiration pour ta beauté blonde, buvant tes paroles, aspirant ta pleine narine, en même temps que le parfum de ta chevelure, la bonne odeur de fruits savoureux qui me venait de toi. « Silence !» interrompit Diane, éperdue, en évitant sa bouche qui appelait la sienne. « J'entends venir quelqu'un !» Elle se redressa. Lui fut sur pied presque aussitôt qu'elle. Ils mirent une certaine distance entre eux. La jeune fille, le visage décoloré, cherchait un maintien. Elle ne s'abusait pas. Dans le parterre, de lourdes chaussures faisaient crier le sable des petites avenues.